Salut les dresseurs, salut les dresseuses, c'est Lou, votre journaliste Ouest France, expert en Pikachu, et je vous accueille dans notre podcast Le Poké Talk pour tout savoir sur Pokémon en compagnie de Malisson, le célèbre professeur lapin. Actu, décryptage, jeu rétro, on vous dit tout.
Poké Talk, une émission à retrouver sur le mur des podcasts de Ouest France et sur toutes les plateformes de streaming.
Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans un nouvel épisode du Poké Talk, votre podcast Made in West France qui vous parle de l'actualité de Pokémon. Et je suis bien sûr toujours en compagnie de mon cher Malisson, le professeur lapin. Comment ça va, Mali?
Eh bien, salut à toi, Lou, salut aux auditeurs et aux auditrices. Et bon, ça va pas trop mal, et toi?
Bah écoute, je vais plutôt bien, je vais d'autant mieux qu'on approche effectivement du Pokémon Day. Vous le savez, c'est le 27 février, l'anniversaire de Pokémon, et c'est une tradition, ce sont des communications de la part de la Pokémon Company pour les nouveautés qui nous attendent, et je dois dire que, comme toi j'imagine Mali, et comme chaque année, je suis assez impatient de voir ce qu'ils ont concocté. Avant de parler de nos attentes, puisque c'est un petit peu le sujet de cet épisode, c'est qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on imagine, qu'est-ce qui nous semble réaliste et qu'est-ce qu'on voudrait un petit peu si on se mettait à rêver côté annonce pour la série Pokémon. Juste avant, je te propose, mon cher Mali, de revenir sur l'épilogue de Pokémon Écarlate et Violet. Donc c'est un troisième DLC, on peut dire une petite surprise, qui nous présente un nouveau Pokémon qui s'appelle donc Pechaminus. On n'en dira pas trop pour pas dévoiler trop d'informations, mais tu as pu faire du coup cet épilogue. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon petit Mali?
Oh, je pense que c'est une petite aventure qui dure à peine une heure. Ça se fait bien, mais ça casse pas trois pattes à un coiffeton non plus.
Est-ce que pour toi c'est une bonne manière de répondre aux dernières questions d'Écarlate et Violet, ou est-ce que malgré tout il reste quelque chose en suspens, et est-ce que ça laisse un petit goût de on aurait pu quand même mieux clore cette aventure?
Ah, complètement, oui, ça laisse un gros goût d'inachevé, puisque sans trop spoiler, ça s'intéresse un petit peu à l'intrigue de Septentria, donc masque quelle couleur déjà?
C'est pas turquoise.
Masque turquoise, voilà, donc la première partie du DLC. Donc on va dire ça apporte un peu de contexte à cette histoire-là, mais à rien de nouveau concernant vraiment l'intrigue principale du Terra Crystal, tout ça. En fait, je prends ça un peu comme une scène post-générique d'un Marvel ou quelque chose.
Ouais.
Ça ajoute un petit plus, c'est dispensable, mais ça fait plaisir. Surtout que, comme tu dis, ça a introduit un nouveau Pokémon, donc Pokémon classé comme Pokémon fabuleux.
Oui, alors, attends, tout de suite, je veux qu'on parle de ça. Moi, ça me pose un problème. C'est un Pokémon fabuleux qui n'est pas distribué et qui est présent dans le jeu, du coup, par la mise à jour. Mais c'est pas la définition d'un Pokémon fabuleux, pour autant.
Ah, c'est en train de changer, hein, parce que on peut trouver Meloetta, on peut le capturer librement,
oui,
dans Écarlate et Violet.
Oui, mais à l'origine, ces Pokémon n'étaient pas disponibles. Le Pokémon fabuleux, quand il arrive, il est disponible par événement, par nature. Et après, effectivement, il y a eu différentes missions pour les obtenir dans les jeux. Mais là, c'est la première fois, on peut dire, qu'il y a un Pokémon présenté comme fabuleux, mais qui est pourtant dispo dès le début, en fait, finalement.
Bah, quand on y pense, je trouve que ça correspond bien à l'ancienne catégorie des fabuleux, puisqu'il demande un objet qui doit être téléchargé par Internet, distribué par la Pokémon Company. On ne sait pas si cet objet sera disponible tout le temps ou s'il aura une durée limitée. Et d'ailleurs, je pense que le jour où les serveurs Switch au maximum seront indisponibles, le Pokémon, ce sera un vrai fabuleux qui sera plus capturable. Et ce que j'aime bien, c'est que ça donne un petit scénario, même s'il n'est pas terrible, un petit scénario autour de ce Pokémon fabuleux, sachant que les derniers, on allait chez Micromania, où on faisait un cas d'omissaire, il était parachuté,
oui,
dans le PC, et voilà. C'est vrai j'avais regretté les petits scénarios qu'on avait avec Darkrai, par exemple, en 4e génération, avec...
Shymin, c'était mignon, enfin, on l'a pas vraiment aussi, eu, du coup, voilà. L'événement.
Il y avait... Déméteros n'en faisait pas partie. Mais il y a eu quelques histoires comme ça, et je trouve ça quand même un petit peu mieux que de les avoir directement. Mais il faut dire, voilà, les Pokémon fabuleux sont en train de perdre leur attrait, leur conception principale, depuis
Depuis l'Internet. depuis Internet aussi quelque part, parce que avant, ce qui faisait que les Pokémon fabuleux étaient hyper rares et compliqués, c'est qu'il fallait se déplacer physiquement les toutes premières fois.
Oui, c'était pas évident. Les toutes premiers, je les ai pas eu parce que j'habitais pas proche d'une grande ville, par exemple. Donc Internet, c'est une bonne chose parce que c'était limité dans le temps. D'un autre côté, ça empêchait les plus jeunes d'y avoir accès parfois. Pourquoi pas, je trouve que c'était plutôt intéressant et j'aimerais bien que les prochains fabuleux qui seront distribués dans les prochains jeux se fassent aussi via un petit scénario, un petit truc sympa comme ça.
Alors un petit reproche qui a été fait à cet épilogue, c'est la non-inclusion d'une jolie petite vidéo qui explique en fait les origines de Pêchaminus et sa relation avec certains des nouveaux Pokémon du DLC. Je sais pas si t'as vu cette petite vidéo sur YouTube.
Ah si, elle est très bien, et je pense qu'elle aurait dû figurer dans le jeu après le scénario, tout simplement.
C'est ça, c'est ce que tout le monde disait, c'est dommage de pas l'avoir, mise dans le jeu. Bon, écoutez, en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur YouTube, peut-être attendez de finir justement le jeu, et dépêchez-vous, car comme le dit Mali, on sait jamais, hein, peut-être qu'ils vont se dire, hop, ça y est, c'est fini. Bon, ils préviendront avant, je pense, hein, mais... Ne tombez pas à court de ce joli petit Pêchaminus qui est de type, on peut le dire quand même, spectre poison. C'est ça, ouais, hein, si je ne me trompe pas.
Et c'est un Pokémon assez rigolo à jouer, voilà.
Oui, assez vicieux, puis il a une bonne tête. Moi, j'aime bien sa bouche, oui, je trouve ça rigolo comme principe. Voilà, ça, c'est pour l'épilogue de Pokémon Écarlate et Violet. A priori, ça y est, c'est fini pour Écarlate et Violet. On peut arrêter de parler de ce jeu. Normalement, l'aventure est terminée. Et on peut se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce qui sera annoncé, du coup, lors du Pokémon Day, le 27 février 2024 je pense, on sera tous d'accord pour le dire. Et quand je dis tous, c'est déjà toi et moi dans ce podcast.
C'est déjà un bon début, oui.
C'est un bon début. Mais en tout cas, le Pokéweb a l'air assez, assez tourné vers la même chose. C'est évidemment les remakes de la 5G. En tout cas, la 5G est au cœur de toutes les préoccupations. Donc je rappelle les épisodes noir et blanc, et on ne les oublie pas, noir 2 et blanc 2, c'est important. Est-ce que tu penses toi aussi qu'il y aura donc ce remake de la 5G qui sera annoncé à la fin du mois?
Ah, je sais pas, perso ça me paraît beaucoup trop tôt parce que les remakes ont tous suivi le jeu d'introduction, la nouvelle génération d'introduction d'une console, donc en gros Game Boy Advance 3G, remake 1G, DS 4G, remake 2G, 3DS 6G, remake 3G, et Switch 8G, remake 4G. Et là vraiment on est sur une deuxième génération de Switch, donc ce serait vraiment une grande première, sachant que les remakes 4G sont arrivés il y a quelques années à peine. Pour moi, selon, on va dire, le calendrier habituel, ça me paraît beaucoup trop tôt, mais d'un côté, on ne sait pas comment exactement, mais on est sûr d'une chose, la Switch est tellement bien implantée, elle est
cette
dernière année de vie, ils vont chercher à essorer la poule Pokémon jusqu'à la dernière goutte, et même si, on ne sait pas, une nouvelle console Nintendo sort en fin d'année, il y aura quand même un gros parc de Switch à alimenter.
C'est ça.
Et un jeu Pokémon serait quand même assez facile à faire, assez rapide, sachant qu'il n'y a quasiment rien en fait d'annoncé pour l'instant côté Nintendo en fin d'année. C'est assez vide. Donc il y a un Metroid Prime 4 qui est en gros point d'interrogation.
Mm-hmm. Est-ce qu'il n'arrivera pas du coup sur la prochaine console de Nintendo aussi?
Ouais,
on ne sait pas trop.
J'y vois mieux comme ça. Et puis je pense que Metroid, c'est pas non plus un produit qui va beaucoup 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 se vendre à Noël comme peut l'être un Mario ou un Pokémon.
C'est sûr.
Je parle vraiment de quelque chose de cette taille-là. Donc, un Pokémon fin d'année, on va dire série principale ou léger spin-off, ça devrait se faire. La 5G en même temps, bon, ils ont laissé pas mal d'indices, de choses comme ça, mais ça peut paraître trop facile.
Alors, parmi les indices, on avait évidemment toutes ces allusions à Unis dans le DLC justement de Écarlate et Violet. On a aussi, alors ça m'a fait rire, on va juste en parler parce que quand les fans sont obnubilés par une explication, ils ne voient que ça. Oui. Donc là, on a eu un tweet il n'y a pas très longtemps sur le compte Pokémon qui reprenait en fait une scène de la 5G, une scène de Pokémon noir et blanc En gros, Reshiram qui vole dans le ciel. Et tout de suite, ah ça y est, la 5G est confirmée, tatati, tatata. Les gens étaient fous, sauf que ça s'inscrit dans une série de tweets qui sont de façon très habituelle, où les comptes Pokémon, y compris sur la chaîne YouTube, va balancer des éléments de différentes générations, de différents... voilà, il n'y a pas plus d'indices ni moins d'indices là-dedans. Est-ce que tu as vu passer ce tweet où tous les gens s'excitaient?
Oui, bien sûr, oui, même je l'ai retweeté en disant de faire attention, parce que voilà, ils ont fait la même chose avec les autres légendaires. C'est des tweets qui indiquent en gros quels anciens légendaires sont disponibles grâce au disque Indigo. Donc il les passe génération par génération. Et je crois qu'on ne les a pas encore. Peut-être que d'ici la diffusion de ce podcast, ce sera le cas, mais on devrait voir les légendaires de 6, 7, 8G qui sont disponibles. Voilà, c'est une présentation, mais comme tu dis, il y a une sorte de biais de confirmation. C'est que
bah oui.
Quand on a une idée, voilà, on voit pas le
reste. C'est ça. Ne voyez pas des signes partout. c'est pas vraiment leur style de communiquer par des petits clins d'œil comme ça. Ils y vont en général un peu plus franco de port dans des vidéos, des présentations où voilà, là on vous le balance. C'est rare en fait qu'ils teasent véritablement en dehors des petits clins d'œil internes dans chaque jeu. Comme vous le savez, hein, Raisin et Orange apparaissaient dans l'hôtel, du coup, dans Épée et Bouclier. Mais ça, on peut véritablement le comprendre qu'après coup. Donc, faut pas non plus voir des signes partout. Moi, sur ce qui va arriver concernant la 5G, je vais être très pragmatique et très réaliste. Comme tu le dis, la Switch est très bien implantée. D'un point de vue... purement commercial et purement logique d'entreprise, parce que oui, la Pokémon Company, avant tout, c'est une entreprise qui cherche évidemment à maximiser ses bénéfices. C'est, à mon sens, un remake qui va arriver, un remake développé par Ilka et qui sera fidèle à l'original, comme a pu l'être Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Alors moi, quand je dis ça sur Twitter, tout de suite, ça part en vrille, parce que oui, machin... Mais tu te rends pas compte, l'accueil de DEPS a été lamentable, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, DEPS, je le rappelle, en quelques mois, c'était déjà la 9e meilleure vente de la licence. Donc, avec plus de 14 millions d'exemplaires vendus, pour un coût de développement qui va être extrêmement minime, parce que c'est une pure adaptation du produit d'origine. Donc, il n'y a vraiment aucun travail de recherche, d'ajout, etc., comme a pu l'être par exemple Rosa, hein, dans lequel il y avait tout un travail de reconcevoir la carte, repenser les nouvelles interactions, les nouvelles méga-évolutions, repenser les mécaniques, etc. Là, on était vraiment sur une pure adaptation basique, donc c'est très simple, c'est peu coûteux, et par contre, ça apporte énormément. C'est une véritable machine à imprimer des billets, et en vrai, il y a aucune raison de ne pas faire ça avec la 5e génération, parce que ça va être de toute façon le dernier épisode qui se prête à ce type d'adaptation. Puisque je rappelle, avec la 6e génération, on est parti en caméra un peu plus libre, en 3D, tout ça. Forcément, le remake sera un poil plus complexe, même si là aussi, ils pourront faire des choses assez basiques. Comment tu le ressentirais, toi, s'ils annonçaient un développement fidèle à l'original, comme l'a été DEPS?
Bah, malheureusement, ça me décevrait, comme beaucoup de monde, mais comme tu dis, la logique commerciale est là. Si après, il y a quelque chose fait par Ilka, je pense qu'il y aurait aussi un Légende ou quelque chose comme ça en complément par Game Freak, qui lui apporterait plus de choses. Mais bon, d'un côté, voilà, le moteur de EPS est là, ils peuvent réutiliser exactement le même. Ilka n'a pas un travail très faramineux à faire. Et de l'autre côté, bah pour les Legends, c'est pareil, le moteur est là, les zones sont grandes mais fermées. Ils peuvent adapter librement Unis à ça. Donc ouais, vraiment, ce serait un peu une solution de facilité de refaire la même chose avec Remake Noir et Blanc plus Legends. Mais voilà, ce serait... je pense que c'est ce qui demanderait le moins de temps, le moins d'investissement pour un retour maximum, tout en préparant la prochaine génération sur la prochaine console. Donc ça me semblerait pas illogique, même si je vais pas dire que ça me plairait bien.
En même temps, Légende a été une proposition très originale, plutôt très bien accueillie, malgré quelques bugs, malgré le retard graphique, etc., le clipping, tout ça. Mais avec un gameplay plutôt original, donc on imagine qu'un deuxième serait forcément beaucoup mieux travaillé et qu'on l'espère un level design un peu plus créatif. Et effectivement, ce serait l'occasion aussi de retrouver des nouvelles formes, des nouvelles évolutions. Moi, j'adore, je dois dire qu'avec le recul, les nouvelles formes et les nouvelles évos de Hisui figurent parmi mes Pokémon préférés, mais toutes générations confondues. Je sais pas toi, avec le, ce que tu ressens par rapport à ces créatures.
Oui, moi aussi, sauf les traductions françaises que je trouve particulièrement...
Ouais, je me suis habitué, mais c'est vrai qu'à Mauvénus, et on avait déjà parlé effectivement de Ursa King par rapport à Ursa Luna, ouais.
C'est le pire choix qu'ils aient pu faire, quoi. Je sais pas qui a validé ça. On est la seule langue au monde qui a viré la référence à la Lune, toutes les autres ont Ursa Luna et... Et c'est un nom magnifique en plus, Ursa Luna. Enfin, ça... Alors, je dis ça parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais... Mais oui, les Pokémon sont vraiment bien. Je trouve que peut-être... Bah, c'est pareil, Quillpix, c'est un de mes Pokémon préférés. mais son nom, il est nul, quoi, parce que tout...
Overquill
bah, oui,
ah là là.
Déjà, Overquill, avec le jeu de mots Overkill, c'est marrant. En plus, c'est pareil que la version anglaise, à l'instar de Quillfish. Et puis surtout, dans toutes les langues, on parle vraiment d'un grand nombre, d'une multiplicité. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de pics, ça pique beaucoup. Et nous, on a juste un Quillpix. Enfin, le nom, la sonorité est rigolote, mais sinon, voilà. Donc... Voilà, à part les noms des Pokémon, ouais, je les aime beaucoup.
Très bien. Bah, en tout cas, moi, je serais très curieux de voir ça. Mais alors, du coup, on se dit là, ce qui nous paraît le plus probable et le plus simple, on va dire le plus basique, c'est donc un nouveau duo, en quelque sorte, remake classique de Ilka, plus un jeu légende. Ce qui ferait qu'on n'aurait pas une alternance folle et on n'aurait pas d'annonce surprenante. Et on serait plutôt sur quelque chose d'assez routinier, en fait, finalement. Et c'est ce qui me fait dire que même si ça paraît le plus probable... C'est peut-être pas finalement le plus probable parce que bah, c'est pas trop le genre de Pokémon finalement d'être aussi routinier. Je sais pas comment tu le ressens. Est-ce que tu crois pas que ça manque un petit peu de fantasy là où ils nous avaient quand même habitués, surtout là sur Switch, à quelques surprises du type Let's Go, du type New Pokémon Snap. Donc est-ce que tu crois qu'ils préparent pas un petit quelque chose de derrière les fagots? Et j'ai oublié Donjon Mystère aussi d'ailleurs.
Oui, c'est possible. Bah, je pense que Snap et Donjon Mystère, c'est des cas à part. Puisque on parle vraiment de spin-off développé par d'autres studios, des autres types de jeux. D'ailleurs, je sais pas si on en a parlé, mais je pense qu'il y aura quelque chose sur un donjon mystère qui arriverait peut-être au début de l'été, parce que ça fait longtemps que les gens demandent. Il y a le moteur d'équipe de secours qui est déjà prêt, qui était très mignon. Donc je pense, s'ils ont envie, ils peuvent refaire même seulement les remakes des donjons mystères explorateurs du ciel et
du temps.
Du temps, ouais, c'est ça, je crois.
De l'ombre ah bah, tu me fais douter, du coup, je sais plus.
Il n'y a pas trois versions.
Il y en a trois. Le ciel, c'est le troisième, je crois, ouais.
Je sais plus. Mais,
je sais plus.
Mais une chose, bah, je pense vraiment qu'on aura un nouveau jeu fait par Game Freak. Et comme tu le dis, ils nous ont surpris avec un légende. Et c'est possible qu'ils nous surprennent avec autre chose. Un jeu qui soit rattaché à la saga principale, mais qui diffère dans sa construction, dans son gameplay, dans quelque chose. Je ne sais pas ce que ça pourrait être exactement, mais ils peuvent nous réserver quelque chose d'un peu surprenant comme ça. Et d'ailleurs, bah, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir.
Alors, on va parler un petit peu de nos jeux de rêve qu'on pourrait imaginer pour la suite. Je voulais juste dire, moi, un remake que j'aimerais bien voir, mais ça n'arrivera jamais. Mais justement, je parle un petit peu de rêve, mais c'est pour évacuer. C'est Pokémon Conquest, je ne sais pas si tu t'en souviens.
J'ai jamais joué, oui, parce que le jeu n'était pas disponible en français, je crois, et difficilement trouvable aussi.
Il était en anglais, je crois, de mémoire, effectivement, mais il était quand même sorti chez nous. C'était un tactical, et ouais. C'était fou. C'était vraiment un style, enfin, le jeu avait un background et même un style graphique qui était complètement hallucinant. C'était Ransei, je crois, le monde sur lequel ça se passait, en forme de Arceus. Enfin bref, ça aurait été bien de le sortir justement à toute l'époque, Isui, Remake 4G et tout. Il y avait un petit lien par le côté Arceus, mais bon, qui sait, peut-être un jour, mais ça semble assez lointain. Alors, je vais revenir d'abord à quelque chose qui paraît pas si fou non plus, parce qu'il y a plusieurs petites rumeurs, et je vais commencer par évoquer cette théorie, et là on revient sur le côté biais de confirmation, et on voit des signes un peu partout. Est-ce que tu as entendu la théorie du DLC supplémentaire pour Écarlate et Violet? Donc je pense qu'il y a plein de gens qui en parlent, mais notamment la théorie par rapport à l'écran titre.
Pas vraiment, je crois que c'est...
Alors,
il me semble qu'il y a quelque chose au sujet des logos.
Alors c'est pas exactement ça en fait, mais je crois que j'avais entendu un truc aussi concernant les logos autour du Écarlate et Violet, du nom Écarlate et Violet, mais là ça concerne en fait le le temps de la journée finalement. Quand tu commences l'aventure de Écarlate et Violet, l'écran titre se déroule pendant le matin en fait. Tu as le matin quand c'est l'écran titre à la fenêtre, tout ça on entend. Okay. Quand tu termines l'aventure principale, c'est le temps du midi, l'après-midi, etc. Donc le jour est bien levé. Mmh. Et quand tu termines le DLC avec l'épilogue, eh bien c'est maintenant le soir. Voilà, et donc il y a évidemment un tweeto qui a dit mais il manque la nuit, donc c'est que forcément il y a encore des DLC et les gens font des articles là-dessus. Est-ce que tu imagines quand même la pauvreté de l'information et le fait de faire des articles à partir de ça, quand même ça me rend fou. Donc là ça rejoint un petit peu les théories fumeuses qu'on peut voir. Je suis sûr qu'il y a à cette heure des centaines de vidéos YouTube qui nous font des théories sur il va y avoir un nouveau DLC avec peut-être cette information là. Par pitié ne faites pas ça, parce que franchement faut vraiment pas prendre tout et n'importe quoi pour des explications, mais voilà. Mais bon, ça pose quand même la question: est-ce que tu penses qu'il serait probable, possible, qu'il y ait de nouveaux DLC pour Écarlate et Violet, à ton avis?
Ça me paraît peu probable, mais jamais impossible, parce que bon, on n'est jamais à l'abri de nos surprises, mais les DLC ont quand même pas été très bien reçus et on n'a aucun chiffre de vente de ces DLC en question. J'ai l'impression que les gens veulent passer à autre chose par rapport à la 9e génération. Et en plus, les DLC agrandissent le Pokédex. Il est déjà bien agrandi et il reste pas grand chose d'intéressant à rajouter. Principalement, il y a quelques légendaires, quelques petits trucs comme ça. Mais j'ai vu une liste tout à l'heure, il y a beaucoup de Pokémon quelconques qui manquent. Donc l'argument, bon, je suis pas convaincu. Et en plus, c'est la première fois depuis très longtemps qu'il passerait 2 années complètes sans sortir de nouveaux jeux version boîte en magasin, avec leur business model, parce qu'un jeu, appelle l'animé, un jeu appelle les cartes, tout ça. Je pense qu'il faut quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc ça me paraît peu probable, surtout la théorie matin, midi, soir. D'ailleurs, je me souvenais même pas qu'il y avait le matin au début. Voilà, parce que comme j'ai fini le jeu très rapidement, moi c'était tout le temps la journée. Par contre, j'ai remarqué que c'était la fin de journée là depuis la fin du DLC. Donc je pensais juste c'était pour dire que c'était la fin, et ouais, la nuit en plus, je sais pas, ça me parle moins, mais bon.
Non, franchement, je pense que c'est vraiment tiré par les cheveux et que ça n'a aucun sens. Après, je voulais juste rebondir sur le côté des Pokémon quelconques. Ces Pokémon quelconques sont peut-être les Pokémon favoris d'autres personnes. Donc, attention à ne pas briser de petits cœurs quand même, parce qu'on ne sait jamais.
Ah, moi, je suis le spécialiste de Pokémon quelconques. D'ailleurs, Excavarène n'est pas dans le jeu, mais...
J'ai failli te faire la remarque sur Excavarène, justement, dans le côté quelconque. Ce serait bien qu'il y ait une évolution un jour pour, tu vois, un petit peu plus le rendre un peu... mettre un peu plus sur le devant de la scène.
Oui, pourquoi pas, mais bon, on va dire c'est pas ça qui changerait la donne, qui me donnerait super envie d'acheter le DLC, de retrouver mon Pokémon, quoi. Je préférerais le retrouver dans un autre jeu, tout simplement.
Je pense aussi effectivement qu'il y a peu de chances qu'on retrouve du DLC pas après l'épilogue. Ça aurait peu de sens. Je pense qu'on a vraiment fait le tour et je trouve que je suis plutôt, avec le recul, assez satisfait de ce qu'ils ont trouvé, justement, avec le Terra Dome, notamment, même si, à l'origine, il me bottait moins que Septentria, et au final, j'ai préféré le Terra Dome, ses aventures, le conseil, tout ça, et les créatures étaient vraiment pas mal, mais je pense que, il faut repartir sur quelque chose de plus... on va dire le meilleur des deux mondes, entre le monde ouvert de la 9G et la linéarité qu'on pouvait avoir avant. Je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver pour avoir une aventure plus conséquente. Moi, c'est vers ça que je me dirigerai et pas du tout vers Palworld. Et j'ai prononcé le mot interdit dans ce podcast, mais on n'est pas aveugle, on voit le succès de Palworld. Parenthèse rapide, je suis pas sûr que ce soit lié à une envie d'évolution de la saga Pokémon, parce que ce qu'il y a dans Palworld, c'est pas juste du Pokémon. Et les mécaniques de jeu, le combat au tour par tour exigeant comme il est, les types, etc., le metagame, tout ça t'as pas dans Palworld finalement. Et je pense que c'est ça qui fait la vraie richesse de Pokémon.
D'ailleurs, pour rebondir dessus, je pense qu'il y aura pas mal de personnes déçues, mais des personnes peut-être qui réfléchissent un peu trop vite. Mais il faut surtout pas espérer que Palworld ait un quelconque impact sur les annonces du 27. C'est beaucoup trop tôt. si jamais la Pokémon Company tire des leçons, change des choses, ça se verra dans les jeux des prochaines années. Mais là, c'est beaucoup trop tard.
Ah oui, bah de toute façon, les prochains jeux sont déjà en développement, hein, sans vous apprendre grand chose. La dixième génération, ils ont déjà les créatures et tout, ils sont déjà en train de plancher sur le design et tout depuis un moment, évidemment. Donc là-dessus, il n'y a pas trop d'illusions à se faire. Et puis comme toujours, il faut aussi rester prudent sur les succès immédiats, parce que des licences qui allaient enterrer Pokémon depuis plus de 25 ans maintenant, il y en a énormément qui sont sortis, hein, de Digimon à Yo-Kai Watch, en passant par Inazuma et en passant par des centaines, alors Inazuma même dans un style très différent, hein, vraiment il y avait de tout, hein, du Coromon, du Temtem. Enfin voilà, on nous a promis mille fois que Pokémon allait se faire écrabouiller par les concurrents. Yo-Kai Watch a été un très 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 sérieux concurrent à une époque, avec un engouement extrêmement fort au Japon aussi, parce que Palworld aussi, le succès, il est aussi occidental mais aussi japonais, parce que le jeu vient du Japon. Mais il y a déjà eu des vagues précédentes de succès avec Yo-Kai Watch, qui était même devant Pokémon à un moment en termes de popularité, en tout cas de présence médiatique. Et puis au final, vous voyez ce qui reste de Yo-Kai Watch aujourd'hui. Donc voilà, Pokémon est quand même là depuis très longtemps, donc c'est quand même fait pour durer. Et je pense qu'il regarde tout ça quand même avec une certaine mesure, et voir est-ce que ça va durer, est-ce que c'est pas un feu de paille. Ouais, vous voyez, Palworld pour l'instant c'est un jeu, Pokémon à côté c'est des centaines de jeux, c'est un animé, c'est plusieurs animés, c'est des cartes, c'est tellement de choses que voilà, l'empire n'est pas prêt de s'écrouler non plus. Oui. Mais je dis ça sans aveuglement non plus, bien évidemment. Bon, on va repartir un petit peu sur des choses un peu plus originales, sur qu'est-ce qui pourrait être annoncé. J'ai mis une petite liste comme ça. Est-ce que tu crois qu'on pourrait revoir un Let's Go un jour ?
Alors la réponse officielle, je ne sais plus si c'était Masuda Omori qui avait dit ça, c'était qu'il pourrait y avoir un Let's Go un jour si les gens le demandent. Sauf que pour beaucoup écumer les réseaux sociaux, je vois très peu de demandes de Let's Go. Je vois plein de...
T'as pas vu mes tweets alors ? Parce que moi, je demande... J'aimerais bien un Let's Go dans la deuxième génération. Pardon, je tousse. Un petit Let's Go, ouais, à Johto, ça me plairait bien.
Bah, le truc, c'est que Let's Go, ça a fonctionné principalement avec deux facteurs. C'est parce que il a surfé sur la hype Pokémon Go, sorti un an et demi avant.
Oui.
Allez, deux ans avant, oui, je crois. Ensuite, justement, cette hype, il y avait pas mal de joueurs et de joueuses de Pokémon Go qui étaient des anciens, qui avaient joué aux premières versions, et donc par nostalgie, ils ont réinstallé Go, et là, ils ont essayé de capitaliser en faisant un retour à Kanto sur Switch, qui a marché convenablement, vu la qualité du jeu et les efforts faits. Pour moi, c'était des jeux scandaleux, quasiment à la hauteur de DEPS, même si... visuellement, je pense que Let's Go sont les plus jolis jeux de la Switch sur Pokémon. Ils avaient réussi à faire des chouettes trucs. Mais surtout, ça a été porté par les mascottes Pikachu et Evoli. Et si on fait un Let's Go Johto, il n'y a aucune mascotte qui est aussi forte que Pikachu et Evoli. Donc à moins de faire Pikachu 2, Evoli 2, dans une région qui a quand même moins eu la cote que Kanto, je sais vraiment pas. Alors après, je pense pas que ça leur demande un temps monstrueux, mais... J'espère pas. Enfin, j'ai pas du tout aimé Let's Go. Je trouve que ces jeux n'ont pas grand intérêt. C'est pas impossible, mais ça me semble pas le plus probable non plus.
Ouais, non, je pense pas non plus, malheureusement, même si, encore une fois, là aussi, c'est un format assez simple. On sait qu'il a été utilisé pour le lancement de la Switch, parce que la Switch était encore relativement peu installée à l'époque. C'était peu d'investissement, c'était pas très coûteux, et ça leur permettait de faire des premiers pas sur la console sans trop prendre de risques, en fait, au final. Là, aujourd'hui, ça aurait un petit peu moins de sens. Mais pourquoi pas renouveler l'expérience sur un jeu de lancement de nouvelle console, en revanche ?
C'est
potentiellement
une éventualité.
Ça me paraît peut-être un peu plus probable, plutôt que de clore une gêne comme ça. Une autre possibilité, est-ce qu'on pourrait revoir un jeu à la Stadium, à la Battle Revolution, donc un jeu vraiment concentré sur les affrontements de Pokémon, est-ce que ça aurait encore du sens ? Parce que je le rappelle, à l'origine, ces jeux étaient créés pour pouvoir voir les combats en 3D. Maintenant, tu vois les combats en 3D dans le jeu, Donc on pourrait dire que le seul avantage qu'on pourrait imaginer sur ce type de jeu, ce serait peut-être la modélisation de l'ensemble des Pokémon.
Ça, ce serait mon rêve, en fait, de faire un jeu service qui fonctionne avec toutes les générations et qui propose un énorme contenu de combat. Donc des challenges en solo, comme on avait la tour de combat, le Battle Frontier, enfin vraiment toutes ces choses, plus des règles modifiables pour affronter ses amis sur Internet. Tout ce qu'en fait, on nous a retiré des versions console, un Magneto VS pour revoir les matchs. Je ne sais pas pourquoi, tout ça, ça a disparu. Si c'est pour tout remettre dans un jeu, bah là voilà, on pardonne tout, parce que surtout quand Stadium, ce serait un jeu qui serait, enfin Stadium-like on va dire, c'est un jeu qui ne serait pas développé par Game Freak mais par une autre boîte, et il pourrait se focaliser pour faire des belles animations de Pokémon qui bougent bien avec des belles attaques. Ce serait vraiment très bien, et finalement que tous les jeux soient reliés à celui-ci, tous les jeux existants et à venir pour tout ce qui est combat, stratégie, et qui se mettent à jour avec chaque jeu et qui permettent après d'envoyer par exemple des points, des monnaies sur les jeux traditionnels. Ça me plairait énormément. Ou encore Colosseum XD, même si c'est très peu.
Ah.
Parce que je crois que c'était... Mais... Il me semble que Masuda a dit que l'intérêt de ces jeux, c'était de jouer sur télé, et que maintenant, il n'y a plus ça. Mais,
ouais, mais alors, au-delà de ça, juste pour préciser, pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas d'ailleurs, l'un des intérêts du jeu, alors, c'est que c'était déjà basé sur des combats doubles obligatoires. Il n'y avait que des combats doubles, ce qui induit déjà une dynamique très différente. Et il y avait... pas vraiment de Pokémon sauvages. Tu devais capturer en fait les Pokémon, on va dire posséder les Pokémon maléfiques de tes adversaires et les récupérer pour les purifier ensuite. Mais c'était comme ça que tu construisais ton équipe. Donc t'avais quand même t'avais des contraintes en fait finalement. C'était pas aussi libre qu'un jeu Pokémon. Et c'est vrai que la dynamique était finalement différente. Et même si ça a moins de sens parce qu'à l'époque c'était surtout pour proposer une aventure différente sur console, je trouve qu'en termes de gameplay, ça a un sens dans l'originalité de la proposition tout de même.
Oui, et ça permettait en plus de récupérer certains Pokémon pas encore disponibles, parce qu'on rappelle, entre Game Boy et Game Boy Advance, on ne pouvait pas faire des transferts de Pokémon, donc tous les Pokémon de rouge, bleu, jaune, or, argent, cristal ne bougeaient pas, ils restaient sur Game Boy. Et Colosseum XD ont permis de pouvoir ramener certains Pokémon avant la sortie, notamment de Emerald et puis de Verfeuille Rouge Feu. Donc c'était intéressant. L'histoire était... ça avait rien à voir avec la conquête des badges, tout ça. C'est une histoire... on va pas dire sombre, mais on va dire un peu moins coloré que d'habitude dans un univers très aride.
Un peu, steampunk aussi, voilà, un petit peu. Donc, différent en termes d'ambiance. On va dire, c'est pas forcément beaucoup plus mature, mais il y a quand même un petit côté un peu post-apo en fait. Au final, on va dire dans la veine, attention, il y a peut-être des gens qui vont hurler, mais d'un FF7 comme on a pu le connaître sur PlayStation par exemple, en termes d'ambiance, on peut dire quelque part.
C'est vrai que niveau ambiance, c'était incroyable. Les musiques aussi, elles étaient exceptionnelles. C'était vraiment des jeux très sympas. Et je pense qu'il y aurait moyen de les remettre au goût du jour. Donc, on ajoute autant des nouveaux Pokémon en changeant, évidemment, la table des types, les attaques, quelque chose de moderne par rapport à aujourd'hui. Et ce serait bien, même si, j'en avais déjà parlé, j'aurais plus vu ça comme jeu d'accompagnement de la 8e génération, parce qu'avec la taille des stades qu'il y avait dans Colosseum XD, ça aurait été parfait pour le Dynamax. Sauf que là, il n'y a plus de Dynamax. Et donc voilà, d'après ce qu'a dit Junichi Masuda, voilà, c'est très très peu probable, et je trouve ça dommage.
Dans la famille, peu probable aussi une suite à New Pokémon Snap, et c'est dommage parce que vraiment je l'ai adoré, je l'ai adoré, adoré, adoré. Je l'aime ce jeu, je l'aimais déjà énormément sur le Pokémon Snap d'origine sur 64. Et là, cette nouvelle version était quand même folle. Et je rêve déjà d'une suite un jour, mais je pense que là, on peut se gratter. En revanche, est-ce qu'il te paraît probable qu'on annonce déjà en 2024, pardon, je perds ma voix parce que c'est l'émotion, la 10e génération?
Alors j'ai mis ça sur le document avec un sourire en coin, parce que bon, c'est vraiment le truc le plus improbable possible. Il n'y a jamais eu 3 générations de Pokémon sur une même console. La précédente est sortie il y a seulement 2 ans. Mais, argument de vente, la Switch, console avec une implantation de dingue, s'ils veulent vraiment les sourire jusqu'à la fin, ils te sortent une nouvelle génération. pour terminer, avec sa centaine de nouveaux Pokémon, quelques bricoles, le jeu sera pas totalement, voilà, pas totalement propre non plus, mais ça se vendrait comme des petits pains. Et
Et qu'est-ce qu'on fait après sur la Switch 2? La version de luxe, badaboum.
Pourrait, tout à fait, oui, ça pourrait être la version de luxe. Même si, bah, je pense que quand même la 10e génération, ils vont attendre les 30 ans en 2026.
Voilà, mais c'est ce que j'allais te dire, évidemment, donc en 2026.
Ils t'en sortent une maintenant, et en 10G 2026, un énième remake de Kanto, voilà, parce que ce sera les 30 ans des premières versions. Ce sera un cauchemar, mais voilà.
Oh là là, on aura bouffé du Kanto dans toute... encore et toujours. Même dans Pokémon Sleep, les Pokémon qu'on croise, c'est surtout des Pokémon de Kanto. C'est quand même terrible.
Évidemment.
Ouais, bah, j'y crois pas trop quand même à la 10e génération.
Non, non, vraiment, c'était un petit troll comme ça. Franchement.
Mais je pense que là, avec ce qu'ils ont fait dans Légende, avec ce côté, on met des nouveaux Pokémon, des espèces de Pokémon intercalaires, on s'autorise à faire ça. C'est la bonne formule pour pouvoir renouveler les générations, proposer des nouveaux contenus à côté dans les jeux annexes Pokémon Go, dans les cartes, tout ça. Donc on a des nouvelles créatures sur lesquelles on peut faire du market, donc ça c'est très très bien. En même temps on n'en crée pas trop, donc ça épuise pas non plus les créatifs, on n'a pas l'impression d'essorer la licence. Et du coup ça permet, ouais, potentiellement, même si c'est pas Légende, on peut imaginer des jeux où il y aura des introductions de nouveaux Pokémon pour faire, voilà, un petit peu tampon entre deux grosses générations finalement.
Bah comme c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué peut-être dans un podcast avec toi, quelque chose qui pourrait exister, qui sera assez particulier. On a eu Légende qui était vraiment axé sur le passé, on a eu Écarlate Violet passé futur, et ce serait un autre jeu à la Légende ou pas forcément, mais qui se passerait dans un futur, en fait. Et là, on pourrait partir sur une ambiance un peu à la Colosseum XD, un petit peu, il s'est passé une catastrophe, la plupart du territoire est en ruine, il y a certains Pokémon robots, quelque chose d'un peu différent, comme ça. Alors après, on va dire, le futuriste, le post-apo, c'est peut-être pas ce qui est plus accueillant pour les enfants, on va dire, mais ça pourrait être une idée de quelque chose. Il pourrait introduire de nouveaux mécanismes, je sais pas, dans un futur lointain, les dresseurs, les dresseuses aient un accessoire pour influer directement au combat, par exemple, je sais pas, en boostant, en attaquant directement le Pokémon adverse. Je sais pas, il y aurait peut-être quelque chose à faire avec un futur, sachant qu'on a déjà traité une partie du passé. Voilà.
Ou un jeu où on incarne directement le Pokémon, clin d'œil Synchrotron.
Oui,
sait-on jamais.
Aussi, mais après, je vois plus ça comme un jeu annexe, plutôt qu'un jeu Game Freak principal.
Tu te souviens des aventures de Pikachu?
Les aventures de
les jeux Pikachu. Mince,
sur
c'était.
Wii,
Pokémon, Poképark.
Oui, oui, oui. Ouais, non, j'ai pas joué à ça, je m'en souviens.
N'y joue pas. Tout simplement, voilà. J'espère qu'ils vont pas annoncer une suite, il manquerait plus que ça.
Ah oui, ça serait...
La tristesse. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour des propositions.
Oui, voilà, on est un petit peu parti dans des trucs imaginaires.
Dans tous les sens, voilà, on verra. Hein. On essaie d'être réaliste, on essaie d'être moins réaliste, on verra bien. Comme ça, on prend pas trop de risques, hein, on pense que forcément ce qu'il y a... On sera peut-être surpris quand même, c'est tout ce qu'on souhaite en même temps.
Oui,
la surprise,
oui.
C'est tout ce qu'on aime.
Absolument.
Donc voilà, alors est-ce qu'on aura de la 5G ou pas? Est-ce qu'on aura du DLC pour Écarlate Violet? Ce serait quand même assez surprenant, on n'y croit pas trop. Mais bon, on va pas fermer toutes les portes. Des nouveaux jeux, des jeux complètement étonnants, un nouveau Légende. J'avoue qu'à nouveau Légende, au final, c'est peut-être ce que je préférerais en ce moment. Là, aujourd'hui, je me dis, ouais, peut-être que ce serait un bon truc et j'accueillerais ça avec plaisir. Et toi aussi, s'il y avait un projet que tu voudrais voir, ce serait lequel, toi,
la
principalement?
La même chose, un nouveau Légende. Voilà, ça serait,
bon, bah, écoute.
Ce qui me paraîtrait le plus probable et ce qui me ferait le plus plaisir. Voilà, c'est le meilleur mélange entre les deux.
Dans tous les cas, évidemment, on décryptera ça après les annonces, mon cher Mali.
Oui, c'est ça, bah, c'est dans 20 jours aujourd'hui,
ouais.
à la date à laquelle on enregistre, donc un petit peu moins quand vous écouterez ce podcast, donc c'est très bientôt.
on essaiera de se presser pour pouvoir le mettre en ligne le plus vite possible et on verra si on a eu raison ou pas. En tout cas, le débrief du Pokémon Day, ce sera dans le prochain Poketalk, donc n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à mettre des étoiles sur vos applications de podcast, à recommander ce podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à aller voir Mali sur sa chaîne YouTube, Malison le professeur lapin. Un grand merci à toi, Mali.
Eh ben, merci à toi, Lou, pour l'invitation. C'était encore très agréable à faire.
Avec grand plaisir. Et sur ma chaîne Lou Lassina Foubert, vous trouverez principalement des let's play et des discussions autour de plein de jeux Pokémon. À très bientôt pour de nouvelles aventures et on verra dans quelle région de Pokémon nous irons. Ciao, ciao.
Merci, à bientôt.
Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.